Frères et sœurs, nous en sommes maintenant au message 3. Et j'aimerais encore une fois vous rappeler, en particulier si vous n'avez pas vu le premier message, que le sujet général de cette conférence est Noé, Daniel et Job. Des modèles nous montrant comment mener une vie de vainqueur sur la ligne de la vie afin d'accomplir l'économie de Dieu. Chacune de ces trois personnes est mentionnée dans Ézéchiel 14, verset 14 et Ézéchiel 14, verset 20. Ce que nous voyons dans ces versets, c'est que Dieu est en train de dire que même si Noé, Daniel et Job se trouvaient à Jérusalem, ils ne pourraient que se sauver eux-mêmes par leur justice. Que Dieu serait quand même forcé de juger la situation qui régnait à Jérusalem, principalement à cause de l'idolâtrie extrême et à cause de l'apostasie. Ce que nous voulons comprendre, c'est pourquoi le Seigneur utilise les personnes de Noé, Daniel et Job. Et jamais nous n'imaginerions que Job se retrouve dans la même catégorie que Noé et Daniel. Nous avons démontré dans le dernier message que nous devons toujours lire la Bible avec les lunettes de l'économie éternelle de Dieu. Et bien sûr, l'économie éternelle de Dieu est le plan du Dieu trinitaire. L'administration du Dieu trinitaire, afin de se dispenser en tant que le Père, dans le Fils, par l'Esprit, dans son peuple élu et racheté. Afin de saturer l'être entier de ses élus, de les régénérer dans leur esprit, de les transformer dans leur âme, et ultimement de les glorifier dans leur corps, pour qu'ils deviennent exactement pareils à lui en vie et en nature, mais pas dans la déité. Ce qui fera d'eux la mariée de Christ. Ils deviendront la reproduction de Christ, l'agrandissement de Christ. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est une personne. Elle est un homme-dieu formidable, Dieu dans l'homme, l'homme en Dieu. Il n'y a jamais eu un tel couple dans l'univers. Ce couple est le Seigneur et nous la mariée. Le Seigneur qui est notre époux et nous qui sommes la mariée. Et le Seigneur qui est le Dieu trinitaire passé par un processus est dans la mariée. Et la mariée, son peuple tripartite transformé, est dans le mari. Et ensemble, ils sont un homme-dieu formidable. Voilà là le but de l'économie éternelle de Dieu. Et j'aimerais répéter ici que lorsque nous examinons Noé, Daniel et Job, nous voyons qu'ils révèlent le Dieu trinitaire qui se dispense dans son peuple élu afin d'accomplir son économie. Lorsque nous lisons le ministère de l'âge, il est très clair qu'avec Noé, nous pouvons voir Dieu le Père dans son désir et son plan concernant son édifice et dans sa fidélité éternelle à garder son alliance, laquelle est sa parole. Avec Daniel, que nous aborderons aujourd'hui, nous voyons que nous avons Christ le Fils comme la centralité et l'universalité de l'avance de Dieu. Et nous voyons aussi Christ le Fils dans sa seconde venue comme le Fils de l'homme. On voit cela principalement dans Daniel 7 et Daniel 10. Enfin, avec Job, ce que nous voyons, c'est Dieu l'Esprit dans son œuvre de transformation pour réaliser ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Job 10, 13. Ce qui est caché dans le cœur de Dieu afin que nous puissions gagner Dieu. Pour devenir Dieu dans la vie, dans la nature et dans l'apparence, mais pas dans la déité. En vue de devenir l'expression corporative de Dieu. Et donc voilà pourquoi nous avons ce sujet général, qui, je pense, est rempli de lumière divine. C'est merveilleux de pouvoir voir cela comme ça. Et Frère Lee a dit que c'était là la clé. Le Dieu trinitaire qui se dispense dans son peuple élu et racheté. Voir cela est la clé qui ouvre les 66 livres de la Bible. Venons-en donc au message 3 qui nous parle de Daniel. Le titre de ce message est « La victoire des vainqueurs » vue avec Daniel et ses compagnons. Et j'aimerais répéter ici, saint, Daniel et ses compagnons. Cette expression est mentionnée plusieurs fois, en particulier au commencement du livre de Daniel. Ce qui nous montre que c'est un modèle. Nous avons tous besoin de compagnons avec qui poursuivre le Seigneur. Des compagnons qui ont une influence positive. Et donc, loué soit le Seigneur pour Daniel et ses compagnons. Et saint, ce que nous pouvons dire au sujet du livre de Daniel dans son ensemble, est que c'est un livre qui porte sur la révélation divine de Dieu concernant son économie. Et ce que nous examinerons en particulier dans ce message, c'est les chapitres 1 à 6 de ce livre. Ces 6 chapitres présentent l'économie de Dieu, non pas selon les enseignements théologiques, mais avec une série de 6 cas, de 6 illustrations qui nous montrent ce qu'est l'économie de Dieu et qui nous montrent comment l'économie de Dieu peut être menée à bien. C'est quelque chose de tout bonnement merveilleux. Nous avons donc ici Daniel et ses compagnons qui ont été comme les autres enfants d'Israël, comme les autres Israélites, qui ont été déportés à Babylone à cause du jugement de Dieu. Il peut sembler qu'en apparence, Dieu ait été vaincu quant à son dessein sur la terre. Mais en réalité, Dieu a préservé son adoration et son témoignage grâce à ses jeunes vainqueurs, qu'étaient Daniel et ses compagnons. Et donc nous verrons que leur victoire était la victoire de Dieu pour faire basculer l'âge, pour ramener le reste du peuple captif jusque dans le pays de Canaan, qui est le bon pays, pour l'édification de son temple, sa maison, pour son expression et pour l'édification de sa cité, laquelle est son royaume pour sa domination. Et donc voilà pourquoi ces jeunes vainqueurs ont été suscités. Ils étaient les vainqueurs qui étaient un instrument dispensationnel pour faire basculer l'âge. Lisons maintenant le plan. Le grand point 1 est un verset tiré de Daniel, qui dit « Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. » Donc nous devons prier « Seigneur, donne-moi une clairvoyance divine. Je veux être un membre de ton corps qui brille, comme la splendeur de l'étendue céleste. » Et grâce à mon éclat, j'aimerais amener de nombreuses personnes à Christ. Seigneur, avec tous les vainqueurs, fais de moi une étoile. Nous pouvons prier des prières simples grâce à ce verset. Nous allons parler de la signification de ce verset. Le point A dit « Chacun dans les églises locales devrait être une étoile éclatante, une reproduction du Christ céleste en tant qu'étoile vivante. » Les étoiles sont ceux qui brillent dans les ténèbres et qui détournent les gens du mauvais chemin et les ramènent sur le bon. Et donc, chers saints, nous devons prier, « Seigneur, fais de moi une étoile éclatante. Fais de moi une reproduction du Christ céleste en tant qu'étoile vivante. Nous avons un livre qui parle de trouver Christ. Comment pouvons-nous trouver Christ? Nous devons le suivre en tant qu'étoile vivante. Nous avons un petit livret à ce sujet que je vous encourage à vous procurer. Et même si vous l'avez déjà lu, lisez-le encore une fois et je vous promets que vous verrez davantage. J'aimerais tout d'abord dire que Christ est l'étoile vivante. Dans Nombre 24-17, il s'agit là d'une prophétie de Balaam. Vous savez, à ce moment-là, Balak, qui était le roi de Moab, souhaitait que Moab, qui était un prophète païen, il voulait que ce dernier maudisse les enfants d'Israël. Mais Balaam ne pouvait pas le faire, et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était bénir les enfants d'Israël. Nous n'avons pas ce verset ici, mais dans Nombre, à un moment donné, Balaam dit même « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Cette prophétie a été prouvée au travers de l'histoire du monde. Quiconque bénit le peuple juif est béni, et quiconque maudit le peuple juif est maudit. Ce n'est pas une question de politique. Il est question de ce que la Bible dit. Et j'aimerais aller plus loin. L'Église est le véritable Israël de Dieu. Et donc, si vous bénissez l'Église, vous serez béni. Si vous maudissez l'Église, vous serez maudit. C'est-à-dire que si vous parlez, vous avez des propos négatifs au sujet de l'Église, vous serez maudit. Quel que soit votre point de vue, vous pourriez dire « Oh, Ed, tu ne sais pas à quel point l'Église ici est dans une mauvaise condition. » Le point, c'est que, aux yeux de Dieu, l'Église est glorieuse. Et donc, nous devons avoir la vision céleste au sujet du peuple de Dieu. Dans Apocalypse 22, 16, le Seigneur dit qu'il est la racine de David et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc ici, le Seigneur nous dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Dans Nombre 24, 17, Balaam dit qu'un astre sort de Jacob. Un astre avec un A majuscule. Et qu'un sceptre s'élève d'Israël. Sceptre a aussi une majuscule, un S majuscule. Il s'agit donc du Seigneur en tant que l'étoile. Qui est pour l'expression brillante du Seigneur. Et le sceptre désigne le règne céleste, la domination du Seigneur. Comme il est dit dans Genèse 1, 26. Laissez-moi revenir à Balaam dans le livre de Nombre. Balaam a annoncé quatre prophéties, quatre paraboles. Et il ne parlait pas uniquement du peuple d'Israël dans son aspect terrestre, mais aussi de l'Israël de Dieu au sens divin et mystique. Et donc, cela nous montre que l'Église, aux yeux de Dieu, est sanctifiée. Elle est parfaite et elle est belle. C'est merveilleux. Ça, c'est les trois premières paraboles. La quatrième parabole nous montre le Christ céleste en tant que l'astre qui sort de Jacob et le Christ qui règne en tant que le sceptre qui s'élève d'Israël. Donc nous avons le Christ céleste qui est pour l'expression de Dieu et nous avons celui qui s'élève comme un sceptre pour la domination de Dieu. Et j'aimerais mentionner ceci en relation au vainqueur. Nous devons réaliser que Christ lui-même est notre victoire. Et si nous parlons du combat spirituel, si nous parlons de victoire, il nous faut avoir conscience que la victoire a déjà été remportée par Christ. Il a déjà vaincu l'ennemi. Il a déjà vaincu l'ennemi sur la croix et il est en résurrection, il est en ascension. Il est celui qui règne et celui qui domine. Il est le roi des rois et il est le seigneur des seigneurs. Et il est notre victoire. Et nous voulons simplement lui donner le chemin de se dispenser en nous, pour qu'il puisse devenir notre victoire dans notre expérience et qu'il puisse être manifesté en nous et au travers de nous en tant que la victoire du Dieu trinitaire. Vous savez, dans 1 Samuel 15, 29, la première partie de ce verset, 29a, Samuel s'adresse à Saül. Et dans la version recouvrement, Samuel fait référence à Dieu qui est aussi Christ comme l'éminence d'Israël. Nous pouvons aussi traduire cela selon une version, la version américaine standard. Ce Christ est la victoire d'Israël. Il n'est donc pas seulement celui qui est prééminent dans l'univers, il est aussi celui qui est notre victoire, avec un V majuscule, dans notre esprit. C'est une réalisation merveilleuse à avoir. J'ai mentionné quelque chose ici au sujet de Matthieu 2:2, car les mages étaient en train de suivre une étoile vivante. Malheureusement, à un moment donné, ils ont cessé de suivre l'étoile quand ils sont arrivés près de Jérusalem. Ils se sont dit « Allons à Jérusalem, car certainement les gens de là-bas sauront où Christ doit naître. » C'était une erreur. Ils auraient dû poursuivre ils auraient dû continuer à suivre l'étoile vivante. Et donc, ils se sont rendus auprès du roi Hérode. Il y avait également des scribes qui étaient là. Et ils ont demandé « Où est celui qui doit naître le roi des Juifs, qui doit devenir le roi des Juifs, car nous avons vu son étoile apparaître et nous sommes venus l'adorer. » À quoi se réfère son étoile ici? Il s'agit de la vision vivante, actuelle et instantanée de Christ. Et cette vision vivante, actuelle, instantanée de Christ, en fait, nous conduit à la présence personnelle, intime et affectueuse de Christ. Et c'est ce qui est arrivé à ces mages. Bien sûr, quand les mages ont posé la question, les scribes savaient immédiatement où regarder dans les Écritures pour voir où Christ devait naître. Et donc, ils ont ouvert la Bible à Michée 5:2, qui dit très clairement que Christ doit naître à Bethléem. Et donc les mages ont quitté Jérusalem et l'étoile leur est apparue à nouveau. Ils étaient pleins de joie. Mais vous savez, les scribes qui ont vu ce verset, eux auraient dû être excités parce que les mages disaient en disant « Mais il s'agit ici de l'accomplissement de Michée 5:2 et nous voulons venir avec vous. » Mais ils ne sont pas allés. Ils n'avaient tout simplement pas de cœur pour Christ. Et ils s'attachaient à la lettre des Écritures au lieu de s'attacher à l'esprit des Écritures. Et nous savons même qu'Hérode était très en souci car il savait que Christ allait être le Messie du peuple juif. Il se disait que Christ viendrait le remplacer. Et donc il a fait quelque chose de terrible si vous lisez plus tard dans le chapitre 2. Il a fait tuer tous les jeunes enfants dans les environs de Bethléem. Car il ne souhaitait même pas que Christ naisse. Mais loué soit le Seigneur, que Dieu a averti Joseph en rêve. Et donc Joseph et Marie ont quitté Bethléem avant que ce massacre n'ait lieu. Loué soit le Seigneur pour cela. » Plus loin, nous parlons toujours d'être une étoile. Apocalypse 1.20 nous parle des sept étoiles et des sept chandeliers. Et je ne mentionnerai que les étoiles. Il est dit que les sept étoiles sont les messagers des sept églises. Les sept étoiles sont les messagers des sept églises. Saints, nous devons tous prier. Seigneur, fais de moi un messager de l'Église. Qu'est-ce qu'un messager dans le sens ici? Un messager est quelqu'un qui a un nouveau message de la part de Dieu, adressé au peuple de Dieu, qui est pour le peuple de Dieu. Ne parlons ici que de Christ. Christ n'est pas uniquement le messager avec un grand M de Dieu, il est aussi le message lui-même de la part de Dieu. Et donc, dans cette réunion, nous voulons qu'il se dispense en nous en tant que le nouveau message de la part de Dieu, dont nous avons toujours besoin. Dans Malachie 2.7, il est question des sacrificateurs, et nous devons tous être des sacrificateurs. Voilà ce qui est dit. Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de Jéhovah des armées. C'est Malachie chapitre 2, verset 7. Nous devons tous être des sacrificateurs. Et nous le sommes d'après 1 Pierre. Nous devons être ceux qui sont pleins de Christ, pleins de la connaissance du Dieu trinitaire. Plein de Christ en tant que l'instruction vivante, l'enseignement vivant du Dieu trinitaire. De sorte que lorsque nous parlons aux autres, nous parlons pour Dieu en tant que connaissance et en tant qu'enseignement, instruction jusque dans leur être. Ça, c'est très significatif. Le point B, les vainqueurs en tant qu'étoiles brillantes sont les messagers des églises. Ceux qui sont un avec Christ, le messager de Dieu, et qui possède le Christ présent comme le message nouveau et vivant que Dieu a envoyé à son peuple. Saint, il est tellement important pour nous de prier, Seigneur, fais de moi un de tes messagers. Pourquoi est-ce important? C'est important car si vous lisez Apocalypse 2 et 3, nous avons là les épîtres du Seigneur aux sept églises. Le Seigneur n'écrit pas directement aux églises, mais il écrit aux messagers des sept églises. Et donc dans Apocalypse 2.1, il dit à Jean, aux messagers de l'église à Éphèse, écris ce que je vais te dire. Aux messagers de l'église à Éphèse, aux messagers de l'église à Smyrne, aux messagers de l'église à Pergame, etc., etc. Les sept églises. Ces épîtres sont toutes adressées aux messagers. En d'autres termes, s'il n'y a aucun messager, il ne peut y avoir aucun canal pour que le Dieu trinitaire, passé par un processus, puisse devenir le message nouveau adressé à son peuple. Et donc nous devons être les messagers de Dieu, les messagers du Seigneur, en tant que la reproduction de Christ qui est le message unique, afin qu'il puisse parler en nous et au travers de nous, qui seront les messagers des églises, pour l'édification des églises. Et donc, saint, ce que nous voyons ici, c'est que sans les messagers, il n'y aurait aucune épître aux sept églises. Comment est-ce que cela s'applique directement à chacun d'entre nous? Voici l'application. Certainement qu'il y en a d'autres. Mais en particulier lorsque nous venons à une réunion de prophétie, il vous faut toujours considérer cette réunion de prophétie comme une réunion très importante. En fait, la question de la prophétie est quelque chose de majeur dans la voie prescrite par Dieu. Dans 2 Corinthiens 14, 31, il est dit « Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient encouragés. » Au verset 4a, Il est dit « Celui qui prophétise édifie l'Église ». Comment est-ce que l'Église est édifiée? Dans Matthieu 16, 18, le Seigneur nous dit « Je bâtirai mon Église ». Mais dans 1 Corinthiens 14, 4a, il est dit « Celui qui prophétise édifie l'Église ». Cela veut dire que prophétiser, c'est parler pour le Seigneur, transmettre le Seigneur jusque dans les gens. Voilà comment le Seigneur bâtit son Église. Il édifie l'Église dans et par ceux qui dispensent Christ, qui parlent Christ jusque dans les saints. Et donc, nous, quand nous lisons la parole sainte pour la vivification matinale, matin après matin, nous devons recevoir la parole par toutes sortes de prières et de supplications. Prier ce que nous lisons en retour au Seigneur. Lire le ministère qui enrichit, qui ouvre la signification des versets et le faire jour après jour. Et arriver à la réunion de prophétie avec quelque chose qui a été préparé dans notre être, que nous allons partager avec les saints pour l'édification de l'Église. C'est quelque chose de grandiose. Et si nous allons aux réunions, à cette réunion de cette manière-là, alors nous irons en tant qu'un messager de l'Église. Un messager de l'Église. Quelqu'un qui détient un message nouveau. Un message nouveau de la part du Seigneur comme le messager avec un M majuscule. Et nous le posséderons, lui, en tant que le message nouveau de Dieu adressé à son peuple pour l'édification de l'Église. Lisons maintenant le point C, qui nous dit qu'il y a deux façons de devenir un astre vainqueur. Tout d'abord par la Bible et deuxièmement par l'Esprit, cette fois intensifié. Le point 1 dit « Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Lorsqu'il est mention ici de la parole prophétique, cela ne se réfère pas à la parole dans un sens étroit qui est de prophétiser le futur, d'annoncer le futur. En fait, la parole entière, la Bible, les 66 livres de la Bible sont la parole prophétique de Dieu. Chaque verset est la parole prophétique. C'est la parole qui est adressée par Dieu à son peuple, que nous devons prier pour que cette parole puisse devenir la parole vivante appliquée à notre être, afin de pouvoir transmettre ces paroles dans les saints pour l'édification de l'Église. Lisons le point A, le petit A. Pierre compara la parole de prophétie dans les Écritures à une lampe qui brille dans un lieu sombre. Cela indique que, 1. Cet âge est un lieu sombre dans une nuit sombre. Romains 13, 12 nous dit que la nuit est très avancée. Le jour s'est approché. Il s'agit du jour de la venue du Seigneur. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il s'agit là du verset de Romains 13, 12. Deux versets plus tard, le verset 14, le Seigneur nous dit au travers de Paul, « Revêtez-vous du Christ ». Et donc, nous revêtir des armes de la lumière revient à nous revêtir de Christ. Dans le combat entre l'esprit et la chair, nous avons besoin des armes. Qu'est-ce que ça veut dire de se revêtir de Christ? Je me suis toujours demandé, comment est-ce que je peux me revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Romains 13, 14 nous dit très clairement ce que cela veut dire, se revêtir de Christ. Cela veut dire vivre par Christ et exprimer Christ en vue de magnifier Christ. Nous sommes donc revêtus de Christ, pas uniquement comme notre justice objective, mais comme notre justice subjective, la justice qui est exprimée au travers de nous. Et donc, à nouveau, se revêtir des armes de la lumière nous sert dans le combat entre l'esprit et la convoitise de la chair. Voilà pourquoi Galates 5,16 nous dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. » Le verset 17 dit que ces deux s'opposent l'un à l'autre. La chair et l'esprit s'opposent l'un à l'autre. De sorte que nous ne puissions plus faire les choses que nous faisions auparavant dans la chair. L'esprit nous limite et nous contraint, nous restreint. Loué soit le Seigneur. Et nous devons vivre par cette restriction. Dans 1 Jean 5, 19, il est dit ceci. Je continue le point. Après Romains 13, 12. Et que tous les gens de ce monde vivent et agissent dans les ténèbres. Et 1 Jean 5, 19 est un verset très important qui nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le mauvais. Réfléchissez-y. Le monde entier gît dans le mauvais. Ce que cela veut dire, c'est que le monde entier gît passivement sous l'influence, dans l'influence du mauvais. Sous son usurpation, son influence usurpatrice. Et remercions le Seigneur d'avoir été transféré, avoir été sorti du monde et d'avoir été transféré en Christ. Lisons maintenant le petit b. Avant que le jour de la venue du Seigneur ne paraisse, l'étoile du matin se lève dans le cœur des croyants. Dans Apocalypse 2, le Seigneur nous dit que l'une des récompenses qui sera donnée au vainqueur est l'étoile du matin. Et donc, avant que le Seigneur ne revienne publiquement, ouvertement, en tant que le soleil, avec un grand S, comme il est dit dans Malachie, qu'il est le soleil de justice, quand il sera le soleil de justice quand il reviendra. Et donc, avant ce retour public, le Seigneur sera pour les vainqueurs une récompense spéciale, il sera l'étoile du matin. Il apparaîtra au vainqueur d'une manière secrète. Vous savez, l'étoile du matin se lève avant le lever du soleil, et nous voulons que le Seigneur soit pour nous l'étoile du matin. Et donc, avant que le jour de la venue du Seigneur ne paraisse, l'étoile du matin se lève dans le cœur des croyants, qui sont illuminés et éclairés lorsqu'ils prêtent attention à la parole prophétique qui brille dans les Écritures. Si nous prêtons attention à la parole de la Bible, qui brille comme une lampe dans un lieu obscur, il s'élèvera dans nos cœurs pour briller dans les ténèbres de l'apostasie, où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous pouvons définir l'apostasie comme l'abandon de la foi. De nombreux croyants ont abandonné la foi, mais nous voulons que le Seigneur se lève dans notre cœur, qu'il brille dans les ténèbres de l'apostasie où nous nous trouvons aujourd'hui, avant qu'il ne paraisse physiquement comme l'étoile du matin. Il y a beaucoup de versets qui sont mis en référence dans ces points, avec ces points, et je vous encourage à nouveau de conserver ces plans et de lire les versets que je n'ai pas eu le temps de citer, de mentionner, car ils sont tous très significatifs. Le point 2 dit « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Loué soit le Seigneur. Notre Seigneur a les sept esprits de Dieu et il a aussi les sept étoiles. » Le petit a dit « Les sept esprits sont un avec les sept étoiles. » Et rappelez-vous que ces sept étoiles sont les messagers des églises. Donc les sept esprits de Dieu sont un avec les messagers des églises, qui sont les sept étoiles. Et les sept étoiles sont un avec les sept esprits. B dit « Les sept esprits de Dieu permettent à l'Église d'être intensément vivante, et les sept étoiles lui permettent d'être intensément lumineuse. Et donc, saint, il nous faut avoir une prière en nous tous les jours. Seigneur, remplis-moi de toi-même, en tant que l'Esprit cette fois intensifié de Dieu. En tant que les sept esprits, Seigneur, remplis-moi de toi, afin que je puisse devenir intensément vivant. Et amène-moi à devenir une de tes étoiles éclatantes dans cet univers. À être une reproduction de toi en tant que l'étoile brillante, pour que je puisse être une personne qui brille intensément. Si nous prions comme cela, le Seigneur va répondre à cette prière. Le point C dit, l'Esprit, cette fois intensifié, est vivant et ne peut jamais être remplacé par la lettre morte de la connaissance. Vous savez, dans 2 Corinthiens 3, j'aime énormément ce chapitre. Je n'ai pas ce verset ici, mais dans 2 Corinthiens 3, j'aimerais mentionner le verset 3. Car Paul dit ici aux Corinthiens qu'ils sont une lettre de Christ, inscrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur de chair. Et donc, saint, dans la pensée de Paul, son ministère servait à produire des lettres vivantes de Christ. Et il a dit aux Corinthiens, vous êtes des lettres de Christ inscrite par notre ministère, inscrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Et donc, saint, le ministère sincère du nouveau, véritable du Nouveau Testament, revient à écrire Christ avec de l'encre mystique et divine, laquelle est l'Esprit du Dieu vivant. Quand cette encre est inscrite en nous, ce qui peut se lire dans notre cœur, sur notre cœur, c'est Christ lui-même en tant que l'Esprit du Dieu vivant. Et donc nous devenons une lettre de Christ, et les gens peuvent alors lire Christ dans notre être. Ils peuvent connaître Christ dans notre être. Et en tant que lettre de Christ, nous exprimons Christ. Et nous sommes lus. Christ peut être lu par les autres au travers de nous, en nous. Et donc, si nous voulons participer au ministère du Nouveau Testament, nous devons être ceux qui écrivent sur le cœur, dans le cœur des gens, avec l'Esprit du Dieu vivant. Si on continue au verset 6, on voit que Paul nous dit que nous avons aussi été rendus compétents en tant que ministres d'une nouvelle alliance. J'aimerais faire une petite pause ici et dire qu'est-ce qu'un ministre d'une nouvelle alliance? C'est un ministre de l'Esprit. Cela nous montre que la réalité de la nouvelle alliance est l'Esprit. L'Esprit avec un grand E que nous venons de voir, qui est l'Esprit comme l'encre, l'Esprit du Dieu vivant qui est l'encre avec laquelle Christ est écrit sur notre cœur et grâce à laquelle Christ peut être lu en nous parce que nous devenons une lettre vivante de Christ. Et donc il est dit que nous avons aussi été rendus compétents en tant que ministres d'une nouvelle alliance, ministres non de la lettre mais de l'Esprit. Nous avons besoin bien sûr de la lettre écrite, mais si nous n'avons que cela, ce n'est pas suffisant. Car il est dit justement que nous ne sommes pas des ministres de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Et donc voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean 5, 39 à 40, il s'adresse aux religieux, à ceux qui s'opposent à lui, il leur dit, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Mais ce sont elles, ces Écritures, qui rendent témoignage de moi. mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et donc, saint, dès l'instant où nous venons aux Écritures, nous devons venir au Seigneur. Nous devons même prier une prière simple lorsque nous prions la Bible. « Seigneur Jésus, je viens à toi dans la Bible. Je viens à toi car je veux gagner plus de toi en tant que vie dans ma lecture de la Bible. » Nous devons toujours venir au Seigneur lorsque nous lisons la Bible. Voilà pourquoi nous recevons cette parole par toutes sortes de prières et de supplications, d'après Éphésiens 6, 18. Lorsque nous faisons cela, la lettre écrite, la parole écrite qui est le Logos, cette lettre devient la parole appliquée, instantanée, qui est Réma. Cette parole instantanée, cette parole appliquée. Je dirais que cette parole est comme une parole qui a notre nom dessus. Le Seigneur nous adresse quelque chose de personnel. C'est ça qui est le Réma. Cette parole-là est en fait devenue l'Esprit qui donne la vie. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin, il nous faut convertir l'information contenue dans cette Bible en révélation et dans la parole instantanée adressée par le Seigneur à nous. Comment ? Par la prière, en priant, lisant cette prière et en recevant, en priant, lisant cette parole, pardon, et en recevant cette parole dans une atmosphère de prière. Le petit point D dit « Les sept étoiles sont les messagers des églises. Ils sont les saints spirituels dans les églises, ceux qui portent la responsabilité du témoignage de Jésus. Ils devraient avoir la nature céleste et avoir une position céleste comme les étoiles. » Lisons maintenant le grand point 2. Le principe du recouvrement du Seigneur est visible au travers de Daniel et ses compagnons. J'aime tellement ces mots qui sont exactement tels qu'ils sont dans les Écritures. Daniel et ses compagnons. Qui étaient les compagnons de Daniel? Regardez la parenthèse. Anania, Michaël et Azaria. Vous savez, on parle toujours des compagnons de Daniel en utilisant leurs noms babyloniens, Shadrach, Meshach et Abednego. Il s'agit des noms que Nebuchadnezzar leur a donnés. Mais nous verrons qu'il s'agit des noms d'idoles. Nebuchadnezzar voulait qu'ils soient identifiés aux idoles. Mais saint, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas ces trois noms, il faut que vous priez dessus. Il faut que vous sachiez quels étaient les noms de Daniel et de ses compagnons. Le nom des compagnons de Daniel. Les noms qui sont selon le cœur de Dieu. Anania, Michaël et Azaria. Et donc, Daniel et ses compagnons étaient absolument un avec Dieu dans leur victoire sur les stratagèmes de Satan. Vous pouvez le voir grâce à ces versets dans Daniel. Lisons maintenant le point A. Dans sa tentation diabolique de Daniel et de ses compagnons, Nebuchadnezzar changea leur nom, qui indiquait leur appartenance à Dieu, en des noms qui les unissaient à des idoles. Le point 1 dit « Le nom Daniel, qui signifie « Dieu est mon juge », fut changé en Belshazzar, qui signifie « le prince de Bel » ou « le favori de Bel ». C'était une idole. Bel était une idole. Vous savez, tout ce qui remplace Dieu ou qui occupe la position de Dieu dans notre vie, dans notre être, est une idole. Mais loué soit le Seigneur pour Daniel. Vous savez, mon quatrième fils, qui est mon dernier fils, En fait, j'étais à Taipei pendant un certain moment et je suis revenu de Taipei juste à temps pour assister à la naissance de mon quatrième fils. Et vous savez, Ruth et moi avions à ce moment-là nous avions déjà trois fils. Et pour une certaine raison, nous étions convaincus que nous allions avoir une fille. Et donc, nous avions choisi un nom de fille. Nous aurions dû être tout à fait ouverts au Seigneur et nous aurions dû prévoir un nom de garçon comme un nom de fille. Mais nous étions tellement convaincus que nous allions avoir une fille que nous avions choisi qu'un nom pour une fille. Et voilà, c'est un garçon qui nous est né. Et nous n'avons pas de nom prévu. Et donc, avec Ruth, nous avons eu de la communion, nous avons prié ensemble pour savoir quelle était la volonté du Seigneur quant au nom de notre fils. Et à ce moment-là, je lisais le livre de Daniel. Et donc, j'ai proposé à Ruth, je lui ai dit, écoute, je lis le livre de Daniel, il est absolument fantastique. Et si nous appelions notre fils Daniel? Et elle a dit, Amen. Et donc, voilà. Nous avons appelé notre fils Daniel. Donc, le nom Daniel qui signifie Dieu est mon juge. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous voulons que Dieu juge toute chose dans notre être qui ne lui correspond pas. Nous voulons qu'il juge tout dans notre être qui ne lui correspond pas. Deux dit, le nom Anania, qui signifie Jah, qui est un diminutif de Jéhovah, a donné gracieusement. Ou celui qui a la faveur de Jah. N'avez-vous pas envie d'avoir la faveur de Jéhovah? Être quelqu'un à qui Jéhovah a donné gracieusement? Certainement, c'est notre désir. Mais son nom a été changé en Shadrach, qui signifie illuminé par le Dieu Soleil. Nous ne voulons pas être illuminés par le Dieu Soleil. Le nom Michaël, j'aime beaucoup ce nom, qui signifie qui est ce que Dieu est? Cela veut dire que Dieu est celui qui est incomparable. On ne peut pas décrire qui est comme Dieu. Son nom fut changé en Meshach, qui signifie qui peut être comme la déesse Shach. Enfin, 4 dit, le nom Azaria, qui signifie Jah a aidé, fut changé en Abednego, qui signifie le serviteur fidèle du Dieu du feu Nego. Nous voulons être ceux qui ont Jéhovah comme leur aide vivante. Et nous ne devons donc pas dire, oh, les compagnons de Daniel étaient Shadrach, Meshach et Abednego. Il s'agit là des noms liés aux idoles. Dans notre conscience, dans nos pensées, nous devons toujours avoir cette sensation, cette prise de conscience, cette réalisation que Daniel et ses compagnons, que les compagnons de Daniel sont Anania, Michaël et Azaria. Et je recommande en particulier aux jeunes quelle est la signification intrinsèque de ces noms. Lisons maintenant le point B. Avec le point B et les points suivants, nous verrons six cas qui illustrent ce qu'est l'économie de Dieu et qui illustrent comment cette économie peut être menée à bien. Il y a donc six cas qui tiennent lieu d'illustration. Le point B. Daniel et ses compagnons furent victorieux du régime démoniaque. Un dit, la tentation diabolique de Nebuchadnezzar servait d'abord à séduire les quatre jeunes brillants descendants des élus de Dieu vaincus, Daniel et ses trois compagnons, pour qu'ils soient souillés en prenant part aux nourritures impures, la nourriture offerte aux idoles. Deux dit, si Daniel et ses compagnons avaient mangé cette nourriture, cela aurait été semblable à ingérer la souillure, à ingérer les idoles et à devenir ainsi un avec Satan. N'oubliez jamais que, même dans le monde, il y a cet adage que nous devenons ce que nous mangeons. C'est absolument vrai. Si nous mangeons Christ en tant que nourriture spirituelle, nous deviendrons Christ en vie et en nature, mais pas dans la déité. Lisons maintenant le point 3. Lorsque Daniel et ses compagnons refusèrent de manger la nourriture impure et choisirent plutôt de manger des légumes, ils rejetèrent sur le principe l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et prirent l'arbre de la vie qui les amenait à être un avec Dieu. Je n'en dirai pas plus ici, il faut que nous avancions. Je vous encourage à lire tous ces versets. Le point 4 dit, écoutez bien cela, le recouvrement du Seigneur. Nous pouvons définir le recouvrement du Seigneur sous de nombreux angles différents. Le recouvrement du Seigneur est le recouvrement du fait de manger Jésus pour l'édification de l'Église. N'est-ce pas là une définition merveilleuse ? Saint, nous devons manger Jésus chaque jour en tant que notre nourriture spirituelle pour que l'Église puisse être édifiée. Voilà ce qu'est le recouvrement du Seigneur. Et donc nous voyons dans le ministère complet de Christ, dans les évangiles, il se trouve à l'étape de l'incarnation. Dans les actes et les épîtres, il est à l'étape de l'inclusion. Laquelle est, selon le Christ, tout inclusif, et dans l'Apocalypse, il est à l'étape de l'intensification, qui est l'Esprit cette fois intensifié. Et donc, dans cette troisième étape, ce que nous voyons, c'est l'intensification du Dieu trinitaire, afin de ramener l'Église dégradée dans la réjouissance de lui-même en tant que l'arbre de la vie, en tant que la manne cachée et en tant que le festin, pour parachever l'économie éternelle de Dieu. L'arbre de la vie est mentionné dans l'épître adressée à l'église à Éphèse, la manne à l'église à Pergame, et le festin, le dîner, est adressé à l'église qui est à Laodicée. Et donc le Seigneur veut nous ramener à la réjouissance de Christ en tant que l'arbre de la vie, la manne cachée et le festin, pour parachever son économie divine. Genèse 2:9 dit très clairement, je vais citer la Bible, est bon à manger. Bon à manger. Nous avons un cantique dans notre livre de cantiques qui dit que Dieu est bon à manger. Vous savez, quand je suis venu au début dans la vie d'église et que les saints chantaient ce chant, ce cantique, que Dieu est bon à manger, j'ai eu de la peine à avaler, j'avais de la peine à chanter ces paroles. Et je me disais intérieurement, Seigneur, à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'était l'Église. Je n'avais pas reçu la révélation de l'Église. Et donc j'ai dit, Seigneur, je sais que ces personnes t'aiment vraiment. Mais peut-être que là, ils sont allés un petit peu trop loin. Avec un tel cantique qui dit que Dieu est bon à manger. Mais ce cantique est tout à fait selon les Écritures, car Genèse 2:9 nous dit que Dieu, en tant que l'arbre de vie, est bon à manger. Et c'est une citation directe. Et donc, à nouveau, dans le recouvrement du Seigneur est le recouvrement du fait de manger Jésus, Jésus qui est Dieu, pour l'édification de l'Église. Manger Jésus en tant que notre nourriture spirituelle. 5 dit, nous pouvons manger Jésus en mangeant ses paroles et en faisant attention à contacter et à passer du temps avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Jérémie 15:16 dit, tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont alors fait l'agrément et la joie de mon cœur. Saint, vous n'avez pas besoin de lever la main ou de répondre à haute voix, mais réfléchissez à cela. Tous les matins, j'espère que vous passez du temps avec le Seigneur. Après avoir passé du temps avec le Seigneur dans la parole, est-ce que ces paroles ne deviennent pas l'agrément et la joie de votre cœur? Si ce n'est pas le cas, alors c'est sûrement que vous avez tout fait machinalement. Nous devons prier la parole, prier avec la parole, nous prier nous-mêmes dans la parole, jusqu'à ce que cette parole devienne l'agrément et la joie de notre cœur. Maintenant, en ce qui concerne nos compagnons. 1 Corinthiens 15, 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Proverbe 13, 20 dit « Celui qui marche avec les sages devient sage ». Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Pourquoi est-ce que j'ai cité ces deux versets? Car c'est là une autre façon de recevoir le Seigneur en tant que nourriture spirituelle. C'est en contactant, en ayant contact avec les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que manger revient à contacter, à entrer en contact avec les choses qui sont en dehors de nous et les recevoir en nous. Et la conséquence, c'est que cela devient notre constitution intrinsèque. Et donc, nous ne contactons pas que le monde en dehors de nous, pas que la parole, en dehors de nous. Il nous faut aussi contacter les bonnes personnes, les personnes sages. Si nous contactons les sages, si nous entrons en contact avec les sages, alors nous recevrons leur sagesse. Et celle-ci deviendra notre constitution intrinsèque. Christ, en tant que sagesse, deviendra notre constitution intrinsèque. Le point suivant. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l'aveuglement diabolique qui empêche les gens de voir la grande statue humaine et la pierre écrasante comme l'histoire humaine à l'intérieur de l'histoire divine. Nous voyons tout cela dans Daniel 2. Dans ce chapitre, Nebuchadnezzar a fait un rêve qui l'a totalement terrifié. Le problème, c'était que Nebuchadnezzar ne se souvenait plus de ce qu'il avait rêvé. Et donc, il a fait venir tous les sages, tous les magiciens, et il leur a dit « Racontez-moi mon rêve et donnez-moi l'interprétation. » Ils lui ont alors répondu « Ô roi, donne-nous, révèle-nous, dis-nous quel a été ton rêve et nous t'en donnerons l'interprétation. » Il leur a dit, « Non, non, si je fais cela, je n'aurai pas confiance dans votre interprétation. J'aimerais que vous me disiez exactement de quoi j'ai rêvé. » Et ils lui ont répondu, « Roi, il n'y a personne qui puisse faire cela. » Le roi était tellement en colère qu'il allait les mettre à mort. Il allait tous les mettre à mort. Cela comprenait Daniel et ses compagnons. Le chapitre 2 de Daniel nous raconte donc que Daniel est allé trouver ses compagnons, qu'ils ont prié ensemble et que le Seigneur leur a révélé quelle était la signification de cette grande statue, quelle était la signification intrinsèque de cette grande statue. Et donc Daniel s'est rendu auprès de Nebuchadnezzar et lui a dit « Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar. » Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar, écoutez bien cela, ce qui arrivera dans la suite des temps. Si nous nous plongeons dans ce rêve et dans sa signification intrinsèque, alors nous irons une connaissance vivante et intrinsèque de ce qui va se passer dans la suite des temps, dans les derniers jours. Cette grande statue humaine représente la totalité du gouvernement humain, qui est en fait la corporification de l'histoire humaine. La tête d'or pur représente l'empire babylonien. La poitrine et les bras d'argent représentent l'empire médo-perse. Le ventre et les cuisses de bronze symbolisent l'empire grec, gréco-macédonien, qui était sous le règne d'Alexandre le Grand. Les jambes étaient de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile, ce qui symbolise l'Empire romain. Et les pieds qui étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce qui veut dire que c'était en partie une autocratie et en partie une démocratie. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse avec soin, attentivement, vous verrez que ces 10 orteils se réfèrent aux 10 rois qui seront sous l'Antéchrist. Daniel 2 nous révèle qu'une pierre va alors arriver, une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Et cette pierre n'est pas Christ seulement, cette pierre est Christ avec ses vainqueurs. Cette pierre est Christ qui a été uni, mélangé et incorporé avec ses vainqueurs, qui seront sa mariée vainqueur, sa mariée victorieuse. Et donc Christ avec ses vainqueurs, avec qui il est uni, mélangé et incorporé, sa mariée victorieuse. Cette pierre va descendre du ciel, va venir écraser cette grande statue en la frappant aux pieds. Alors voilà ce qu'il est dit. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble, et ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand Christ reviendra, Christ pulvérisera tout le gouvernement humain et il établira son royaume sur la terre. Cette pierre va devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. Les versets 44 et 45 de Daniel 2 nous dit que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Je n'en dirai pas plus. Il y a de nombreux autres versets qui sont très significatifs ici. Mais laissez-moi malgré tout continuer en lisant le point 2. Qui dit « Christ produit sa mariée en tant que la nouvelle création, par la croissance, la transformation et la maturité. » Il y a ainsi un besoin urgent de maturité. Dans Hébreux 6.1, Dieu nous charge « Parvenons à maturité. » Une traduction que Frère Lys cite, nous dit que nous devons coopérer avec Christ pour parvenir à maturité. La maturité se réfère à la dernière étape de la transformation. Qu'est-ce que la transformation ? La transformation, c'est être métaboliquement changé dans notre vie naturelle. Alors que la maturité, c'est être rempli de la vie divine qui nous change. La maturité est la dernière étape de la transformation, ce qui revient à être métaboliquement changé dans notre vie naturelle jusqu'à ce que nous soyons remplis de la vie divine qui nous change. C'est alors que nous serons arrivés à l'étape de la maturité. Lorsque nous arrivons à cette étape, à cette condition, nous pouvons être des gens qui bénissent les autres avec le Dieu trinitaire. Nous pourrons bénir les autres avec la Trinité divine qui se dispense elle-même dans les gens. Qu'est-ce qu'une bénédiction ? Une bénédiction, c'est le débordement de la vie. Lisons maintenant le point 3. Christ, en tant que la pierre vivante et précieuse, la pierre de fondement, la pierre angulaire et la pierre principale, pierre de fête de l'édifice de Dieu, nous infuse de lui-même comme l'être précieux, pour nous transformer en des pierres vivantes et précieuses pour son édifice. Rappelez-vous, nous avons vu dans 1 Pierre 2 que Christ lui-même était l'être précieux par excellence pour ses croyants. Et nous voulons que celui-ci soit dispensé en nous pour que nous puissions devenir comme Daniel était, un homme qui était précieux. Lisons maintenant le point D, c'est le cas illustratif suivant, qui nous montre ce qu'est l'économie de Dieu et comment l'économie de Dieu peut être menée à bien. Ce point dit, Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l'incitation à adorer les idoles. Tout ce qui n'est pas le Dieu véritable dans notre esprit régénéré est une idole qui remplace Dieu. Tout ce qui n'est pas dans l'esprit ou de l'esprit est une idole. Vous savez, on ne penserait pas à cela dans notre homme naturel. Mais le dernier verset de 1 Jean dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et comme j'ai déjà partagé dans un message précédent, dans Ézéchiel 14:3, le Seigneur dit à Ézéchiel « Fils d'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur. » Cela montre que les idoles dont Dieu parlait à Ézéchiel et dont Jean évoque n'était pas quelque chose qui est externe aux gens, au peuple de Dieu, mais qui devient un remplacement pour Dieu dans le cœur des hommes. Quelque chose que nous estimons plus que Dieu. Quelque chose qui remplace Dieu. Et qui ne provient pas de l'esprit et qui n'est pas dans l'esprit. 2 continue en disant « L'ennemi du corps est le moi, qui remplace Dieu, qui remplace Dieu. » Donc nous voyons que le moi lui-même peut être un ennemi, peut être une idole qui remplace Dieu. Et donc l'ennemi du corps est le moi qui remplace Dieu par ses propres intérêts, l'exaltation de soi, la gloire personnelle, l'embellissement personnel et la force personnelle. Dans le corps et pour le corps, nous renions le moi et ne prêchons pas ce que nous sommes, mais Christ Jésus comme le Seigneur. Il s'agit là de 2 Corinthiens 4, 5. Je prie très souvent ces versets et j'espère que vous le ferez aussi. À chaque fois que nous prenons soin des gens, nous devons prier « Seigneur, sauve-moi de me prêcher moi-même ». Je veux prêcher Christ Jésus comme Seigneur à tous ceux à qui je parle. Saint, j'aimerais ici ajouter un verset. Quand j'ai dit que le moi remplace Dieu et donc peut devenir une idole, Lévitique 14:9, il nous est parlé ici de la purification du lépreux. Pour que le lépreux soit purifié, il devait raser tout son poil. Mais Lévitique 14:9 ne dit pas simplement « rase tout ton poil ». Ce verset indique spécifiquement qu'il faut raser tous les poils de son corps. Sa tête, sa barbe, ses sourcils, raser tout son poil. Pourquoi est-ce que ce verset, Lévitique 14:9, est autant spécifique ? Car tous ces aspects que je viens de mentionner sont des aspects du moi. Le poil de la tête représente la gloire personnelle. Les sourcils représentent l'embellissement personnel. Les poils de la barbe représentent l'honneur personnel, l'exaltation de soi. Et tout le poil du corps représente la force personnelle. Tout ce poil doit être éliminé par le rasoir de la croix. Et loué soit le Seigneur que la croix se trouve dans l'esprit tout inclusif composé. Et donc quand nous jouissons vraiment de l'esprit tout inclusif composé, avec l'efficacité de la croix qui est dans cet esprit, alors l'esprit devient comme un rasoir pour éliminer, pour raser notre gloire personnelle, notre exaltation de nous-mêmes, notre embellissement personnel et l'exercice de notre force et de notre capacité personnelle. Saint, lorsque c'est le cas, je dirais la chose suivante, lorsque nous n'avons plus rien et que nous ne sommes plus rien, alors nous serons purifiés de notre lèpre, car la lèpre est un grand signe de rébellion contre Dieu. Lorsque nous sommes dans le moi, nous sommes en rébellion ouverte contre Dieu. Nous voulons rejeter notre moi, nous voulons exercer notre esprit pour rejeter, pour renier le moi et vivre par une autre vie, la vie divine, laquelle est Christ lui-même. Et donc nous renions le moi et ne prêchons pas ce que nous sommes, mais Christ Jésus comme le Seigneur. Le moi est vraiment quelque chose de terrible. Nous avons notre exaltation personnelle. Vous savez, peut-être parfois, il se peut qu'il y ait un nouveau qui n'ait pas conscience que nous avons été dans la vie d'Église pendant plus de 20 ans. Et il nous dit, il faut que tu te tournes vers ton esprit, frère. Alors on peut s'offenser en répondant, ne te rends-tu pas compte que j'ai été dans le recouvrement du Seigneur depuis plus de 20 ans ? Cela veut dire, cette réaction veut dire que notre barbe doit être rasée, dans le type. Ça veut dire qu'on l'on doit renier notre honneur personnel. Vous savez, la raison pour laquelle on s'offense, c'est parce que nous sommes dans le moi. Récemment, j'ai traversé une situation très difficile. Et je ne peux pas trop en dire, car je ne veux pas exposer la situation. Mais c'était quelque chose qui était difficile à traverser pour moi. Mais alors, le Seigneur m'a donné 1 Corinthiens 6, 7. Et le contexte, c'est que les Corinthiens ont des procès les uns avec les autres. Et Paul dit ici, pourquoi ne pas plutôt supporter un tort ? En d'autres termes, même si tu as tort, pourquoi ne pas simplement accepter d'avoir tort ? Prendre la croix et avoir tort, et tout ira bien. Il faut se réjouir du Seigneur, et dans cette réjouissance du Seigneur, il y a la croix qui nous amènera à être prêts à avoir tort pour gagner plus de Dieu. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de m'avoir parlé dans ce verset, 1 Corinthiens 6, 7. Le point 3. Les compagnons de Daniel avaient un véritable esprit de martyr. Ils tenaient ferme pour le Seigneur, le Dieu unique, et contre l'adoration des idoles au prix de leur vie, étant jetés dans une fournaise ardente par les ordres de Nebuchadnezzar. Si vous regardez les notes de bas de page dans Daniel 3, il est dit ici que certainement Daniel était en train de prier pour ses 3 compagnons, alors qu'ils allaient être jetés dans la fournaise ardente. Et donc, Anania, Michaël et Azaria, Nebuchadnezzar avait fait ériger cette immense statue et voulait que tout le monde se prosterne devant elle. Et Daniel et ses compagnons, les compagnons de Daniel avaient refusé de se prosterner devant ces statues et avaient dit « Notre Dieu est capable de nous sauver ». Et j'aime beaucoup ce qu'ils disent. Même si Dieu ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas pour autant devant ces statues. En d'autres termes, c'est sa volonté, que sa volonté soit faite, que sa volonté nous concernant soit faite. Mais nous ne nous prosternerons et n'adorerons que Dieu, personne d'autre. Cela a rendu Nebuchadnezzar hors de lui. Il a ordonné que la fournaise soit 7 fois plus ardente. Elle était si chaude que les hommes qui ont jeté les 3 compagnons dans la fournaise ont été absorbés et tués par les flammes. Les flammes ont été attisées à un tel point que les hommes qui ont jeté les compagnons ont été tués. Et alors que Nebuchadnezzar regardait ce qui se passait, il a vu 4 hommes et le 4e ressemblait au Fils de l'homme. Il était venu, le 4e était le Christ excellent, comme le Fils de l'homme qui était venu pour accompagner ces 3 vainqueurs persécutés qui souffraient, afin de faire du feu un lieu agréable dans lequel marcher. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux ? Peut-être que vous vous trouvez dans une situation qui est une fournaise. Mais il vous faut réaliser que vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est le vainqueur avec un grand O dans votre esprit. Et il est Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec vous, avec nous. Il n'est pas seulement avec nous, il est aussi en nous. Et il marche avec nous dans cet environnement qui est comme une fournaise ardente. Et c'est par sa présence même que cette fournaise, que ce feu devient un lieu agréable dans lequel marcher. Les 3 vainqueurs n'avaient pas besoin de demander à Dieu qu'il les délivre de la fournaise, Christ, en tant que le Fils de l'homme, celui qui est qualifié et capable de compatir avec le peuple de Dieu en toutes choses, vint pour être leur compagnon et prendre soin d'eux au milieu de leurs souffrances. Faisons de leur lieu de souffrance une situation agréable par sa présence. Saint, la présence du Seigneur vaut tout pour nous. Nous en arrivons au cas suivant, dans Daniel 4. Eux dit, Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l'aveuglement qui empêche les gens de voir le gouvernement des cieux par le Dieu des cieux. Nous allons lire ces points et voir ce que cela veut dire. 1 dit, ceux qui ont été choisis par Dieu pour être son peuple, afin que Christ ait la première place, nous sommes sous le gouvernement céleste de Dieu dans le but de rendre Christ prééminent, comme ceux, pardon. Le problème, c'est que Nebuchadnezzar n'a pas reçu cette parole, n'a pas accepté cette parole. Dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar a à nouveau un rêve et il demande à Daniel de lui en donner l'interprétation. Et Daniel répond au roi, « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept temps passeront devant toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. » En d'autres termes, Nebuchadnezzar, tu n'es pas celui qui règne sur la royauté humaine, sur le royaume des hommes. Dieu est celui qui règne, qui domine. Et Dieu t'a donné à toi le royaume de Babylone. Cela n'est pas arrivé en ta possession par hasard, par tes propres forces. Nebuchadnezzar a entendu cette parole et Daniel a fini en lui disant « Ton royaume te sera rendu lorsque tu verras que les cieux règnent. » Quoi qu'il en soit, Nebuchadnezzar a oublié cette parole, n'a pas fait attention à cette parole. Et plus loin dans Daniel 4, il est dit que Nebuchadnezzar se promenait dans le palais royal à Babylone. Et il dit, « N'est-ce pas ici la Babylone la grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Et il est dit, au verset 28, « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. » C'est à toi que l'on parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. Et tout ce que Daniel avait dit s'est réalisé. Jusqu'à ce que tu vois que le Très-Haut est celui qui domine sur la royauté humaine et qu'il la donne à qui il lui plaît. Finalement, Nebuchadnezzar en est arrivé à louer, à exalter, à glorifier le roi des cieux. Et il dit, il est celui qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et nous devons tous prier, Seigneur, sauve-nous de notre orgueil. Je n'oublierai jamais dans le livre qui s'intitule « Comment être un collaborateur et un ancien », il y a un des points très importants. Un point très important qui dit que l'orgueil fait de nous les personnes les plus insensées qui soient. Et donc nous devons prier, Seigneur, sauve-moi de mon orgueil à tout prix. Le point F est le point suivant. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur l'ignorance relative à ce qui est produit par la débauche devant Dieu et par l'insulte de sa sainteté. Nous avons ici Belshazzar, qui était un descendant de Nebuchadnezzar. Le point 1, Belshazzar, qui prenait les vases destinés à l'adoration de Dieu dans son qui prenaient les vases destinés à l'adoration de Dieu dans son saint temple à Jérusalem pour les utiliser afin d'adorer les idoles était une insulte à la sainteté de Dieu. Belshazzar tenait une fête, une grande fête, et il a eu l'audace d'amener les vases qui étaient destinés à l'adoration de Dieu dans le temple saint à Jérusalem et de les utiliser pour boire. C'était là une grande insulte à la sainteté de Dieu. Le point continue. Il aurait dû apprendre la leçon de l'expérience de Nebuchadnezzar. Cependant, il n'apprit pas la leçon et en conséquence, il en souffrit. Saint, nous devons toujours apprendre les leçons spirituelles dans notre histoire. Vous savez, nous avons une histoire, pas seulement l'histoire générale de l'Église, mais aussi l'histoire du recouvrement, et nous devons apprendre les leçons qui découlent des erreurs qui ont été faites. Nous devons apprendre les leçons. En tout cas, Belshazzar n'a pas appris la leçon. Alors qu'ils étaient dans la débauche et qu'ils utilisaient les vases destinés à l'adoration de Dieu, voilà ce qui est dit au verset 5. À ce moment-là, Belshazzar regardait le mur et voilà ce qui est dit. À ce moment-là apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur le plâtre de la muraille du palais royal. Et le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Le roi était terrifié. Et voici ce que dit l'écriture qui a été tracée. Ok. La main écrivait, et qu'est-ce que Belshazzar a fait? Il a appelé Daniel pour qu'il vienne interpréter ce qui avait été écrit sur le mur. Et je ne pense pas que je peux le prononcer de manière correcte, mais vous pouvez lire dans Daniel 5, Méné, Méné, Tekel et Parsine. Voyons maintenant ce que cela veut dire. Voilà ce que dit Daniel. Dieu a compté ton règne et a mis fin. Voilà ce que Méné veut dire. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsine, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La raison pour laquelle Parsine est mentionnée après Tekel, c'est que Parsine est en fait le pluriel du mot Tekel, qui veut dire « ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses ». Nous avons ici quelque chose de remarquable, et Daniel a pu l'interpréter. Il a dit « ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes ». Et écoutez ce qui vient ensuite. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. La nuit suivante. Et Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. En d'autres termes, étant donné que Belshazzar n'avait pas appris la leçon de son ancêtre spirituel, Nebuchadnezzar, et étant donné qu'il se trouvait dans une situation de débauche qui était une insulte à la sainteté de Dieu, cette même nuit, l'histoire de l'humanité a changé. L'histoire du monde a changé. Elle a changé parce que Belshazzar, le roi des Chaldéens, a été tué. Et donc Babylone n'était plus alors le gouvernement suprême sur la terre. C'est l'Empire Médo-Perse, avec à sa tête le roi Darius, qui est devenu l'Empire qui avait la suprématie. parce qu'on a trouvé chez Daniel un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Le verset 12a, c'est la mère de Belshazzar qui parle ainsi. Et le point 3 dit « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Voilà ce que dit Daniel à Belshazzar, et je lirai seulement ce passage. « Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Notre souffle appartient à Dieu. Nos voix, toutes nos voix appartiennent à Dieu. C'est pourquoi nous devons honorer Dieu, glorifier Dieu. » Juge 9, 8 à 9 dit que nous honorons Dieu grâce à l'huile. C'est-à-dire que nous honorons Dieu en marchant, en vivant dans notre esprit. C'est aussi la manière par laquelle on honore l'homme, c'est en leur dispensant l'esprit. Et donc nous devons marcher par l'esprit pour honorer Dieu et dispenser l'esprit pour honorer les hommes. Nous en arrivons au point G, qui est une autre illustration. Daniel et ses compagnons étaient victorieux sur la subtilité qui empêche les vainqueurs d'être fidèles pour adorer Dieu. Vous savez, tout cela est survenu à cause de la jalousie. Le roi avait des ministres en chef, des satrapes, des intendants, et ces derniers étaient jaloux de Daniel. Daniel était un ministre exemplaire, c'était un homme-dieu merveilleux, et il ne pouvait l'accuser d'aucune erreur, aucune négligence. Et ils se sont dit que s'il trouvait en lui quelque chose de quoi l'accuser, ça serait certainement en lien avec sa religion. Et donc ils ont approché le roi et lui ont dit de publier un édit royal. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Saint, si c'était nous, certainement nous nous serions dit « Ok, bon ben je vais prendre une vacance, je vais prendre des vacances et je vais faire une pause, je ne vais plus prier. » Mais Daniel n'a pas agi ainsi. Au verset 11, il est dit « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » En d'autres termes, Daniel priait là au péril de sa vie. Il ne se souciait pas de cet édit royal et a continué à prier avec sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem, ce qui veut dire que sa fenêtre était en direction de l'économie éternelle de Dieu, et qui, dans les termes du Nouveau Testament, est la Nouvelle Jérusalem. Il nous a dit qu'il louait son Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui décrit un homme de prière? C'est que cette personne est reconnaissante. Le point 1. Le cœur du chapitre 6 de Daniel est la prière de l'homme pour mener à bien l'économie de Dieu. Les prières de l'homme sont comme les rails qui fraient le chemin, afin que Dieu puisse continuer à avancer. Il n'y a pas d'autre moyen d'accomplir l'économie de Dieu pleinement, si ce n'est par la prière. C'est le secret inhérent à ce chapitre, chapitre 6 de Daniel. 2 dit « Daniel pria vers Jérusalem avec les fenêtres ouvertes. Grâce à sa prière pleine de grâce, Dieu ramena Israël au pays de leur père, qui était le pays de Canaan, le bon pays. » Le point 3, qui est une citation de Daniel 6:11 que je viens de vous lire. Trois fois par jour, Daniel priait. Et le point 4, le dernier point, dit « Dieu écoutera notre prière lorsque notre prière est tournée vers Christ, typifié par la Terre Sainte, vers le royaume de Dieu, typifié par la Ville Sainte, et vers la Maison de Dieu, typifié par le Temple Saint, comme le but de dans l'économie éternelle de Dieu. » Et donc 1 Roi 8, 48 à 49 nous charge de prier à Dieu en direction du pays. En direction du pays, en direction de la ville et en direction du temple. Le pays représente le Christ tout inclusif. La ville représente la Ville Sainte comme le royaume de Dieu. Et la Maison de Dieu typifie le Temple Saint. Et donc, quand nous prions, si nous prions pour une personne, ne dirigez pas votre prière en direction de cette personne. Dirigez vos prières vers les intérêts de Dieu. Votre prière devrait toujours être dirigée vers Christ, vers le royaume de Dieu et vers la Maison de Dieu, lesquels sont le but de l'économie éternelle de Dieu. Certainement, il nous faut prier les uns pour les autres, mais ne dirigez pas votre prière vers une personne. Dirigez vers votre prière vers les intérêts de Dieu. Encore une fois, notre prière devrait toujours être dirigée vers Christ et l'Église, qui sont le contenu de l'économie éternelle de Dieu. Christ, typifié par le bon pays, le royaume de Dieu typifié par la Ville Sainte et la Maison de Dieu typifiée par le Temple Saint comme le but dans l'économie éternelle de Dieu. Saint, pardonnez-moi, j'ai donné un message un peu plus long que je n'espérais, mais c'était quelque chose de merveilleux. Dans Daniel 1 à 6, nous voyons la victoire des vainqueurs. Grâce à Daniel et ses compagnons. Et Saint, dans ce plan particulier, j'aimerais m'assurer que vous reteniez ces trois points qui sont comment Daniel 12:3 peut-il se réaliser? C'est-à-dire arriver à la situation où chacun dans les églises locales est une étoile brillante. Le deuxième point, quelle est la signification des noms de Daniel et de ses compagnons? 3. Comment les cas de Daniel 1, qui sont des illustrations, peuvent montrer ce qu'est l'économie de Dieu et comment elle peut être menée à bien? Si vous parvenez à répondre à ces trois questions, alors vous avez la signification intrinsèque du message 3. Je vais m'arrêter ici et je dirai tout simplement « Loué soit le Seigneur !» Pour chacun d'entre vous, chers saints qui regardez ce message, remercions, louons le Seigneur pour la victoire des vainqueurs de Dieu, illustrée par Daniel et ses compagnons.